Décortiquons tout ça. Prenons l'exemple d'un projet informatique massif au sein d'une très grande entreprise. Le genre de chantier de modernisation qui fait en général trembler les comités de direction.
Le genre de projet où on sait d'avance qu'on va exploser le budget, ouais.
Exactement. Et sur le papier, pour ce cas précis, les estimations étaient formelles. Il fallait mobiliser une équipe entière de 10 ingénieurs ultra expérimentés et le travail devait s'étaler sur 12 longs mois.
Ce qui est la norme classique, en fait.
C'est ça. Sauf que là, la réalité dérape complètement. Deux développeurs, juste deux, équipés des derniers outils d'intelligence artificielle générative, s'emparent du sujet et terminent l'intégralité du projet. Et pas en 12 mois.
Non, en 3 jours.
En exactement 3 jours. Et c'est pas de la science-fiction, hein. C'est un cas bien réel qui a été documenté au cours de l'été 2026. Et pour ceux qui nous écoutent, ça prouve une chose fondamentale, c'est que tout ce que l'industrie pensait savoir sur la création de logiciels est tout simplement en train de s'effondrer.
C'est un bouleversement total, vraiment. Parce que pendant des décennies, la métaphore dominante, c'était que produire du code s'apparentait à couler du béton.
Du béton, ouais.
C'était lourd, c'était massif, permanent. Une fois que l'architecture était figée et que le code était écrit, revenir en arrière pour modifier les fondations, ça coûtait des sommes astronomiques. Ça exigeait un temps infini et on risquait de faire s'écrouler tout l'édifice.
Donc on verrouillait tout en amont, c'est logique.
Tout à fait. On devait tout, absolument tout, verrouiller avant d'écrire la moindre ligne.
Et c'est là que le dossier de recherche qui est sur notre table aujourd'hui intervient. C'est un dossier daté du 31 juillet 2026. Il démontre de manière implacable que ce béton est littéralement devenu de l'argile malléable. On a devant nous une montagne de données assez vertigineuse. Les analyses du stratège Akash Gupta, les réponses de Marty Kagan, une figure historique du management de produits, et puis des cas d'usage réels chez des géants comme Anthropic, Uber ou la start-up Cursor.
Un panel très complet, ouais.
Voilà. Et la mission de notre plongée documentaire d'aujourd'hui pour notre audience, c'est de comprendre cette inversion totale du modèle de création technologique. Comment est-ce qu'on est passé d'un monde obsédé par l'idée de, je cite, « réfléchir des mois pour protéger le temps des ingénieurs » à une ère où la norme devient « construire instantanément pour voir si ça marche ». L'enjeu est colossal, parce que c'est tout le modèle opérationnel de la Silicon Valley qui vacille là.
Ce qui est fascinant ici, c'est que le postulat économique même de l'industrie technologique est en train de s'évaporer. Si on prend le modèle de Marty Kagan, par exemple...
Ouais, le fameux modèle produit.
Exactement. À travers ses livres, qui sont considérés comme des bibles, comme Inspired ou Empowered, toute la méthodologie visait un seul but. La protection.
Protéger quoi, au juste?
En ingénierie. C'était la ressource la plus rare, la plus coûteuse, le goulot d'étranglement absolu de n'importe quelle entreprise.
Ah oui, c'est vrai que les développeurs coûtent toujours très cher.
Voilà. Alors, pour ne pas gâcher cette ressource, on a inventé la discovery. Des semaines d'interviews utilisateurs, de maquettes, de validation des risques de marché, de faisabilité technique.
On testait tout avant, quoi.
C'est ça. On filtrait impitoyablement les idées avant, bien avant d'autoriser l'écriture de la moindre ligne de code. Or, aujourd'hui, avec l'IA, le coût marginal de cette écriture de code chute drastiquement.
Ça tombe presque à zéro.
Presque jusqu'à zéro, ouais.
Et c'est là qu'il faut vraiment visualiser l'ancienne réalité, je pense. L'ancien modèle, c'était très concrètement comme gérer la cuisine d'un restaurant 3 étoiles, où les ingrédients coûteraient une fortune absolue. Imaginons de la truffe blanche à chaque plat, tu vois.
J'aime beaucoup l'analogie, ouais.
Évidemment, dans ce cas-là, on laisse pas les cuisiniers improviser ou jeter des plats ratés à la poubelle, c'est impensable, on planifie les recettes des mois à l'avance, on discute de chaque gramme en réunion de direction pour être certain de ne rien gâcher.
C'est exactement ça.
Mais si du jour au lendemain, par une espèce de miracle technologique, la truffe blanche devient gratuite et inépuisable, toute cette bureaucratie conçue pour éviter le gaspillage devient instantanément obsolète, non?
Ah mais totalement! Et pour filer ton métaphore culinaire, le problème aujourd'hui n'est plus le coût des ingrédients, c'est le risque de cuisiner des choses que personne ne veut manger.
Ouais, de faire des plats que les clients vont renvoyer en cuisine.
Exactement. La rareté ne se situe plus dans la capacité à taper du code, ni même dans la vitesse d'exécution. Les chiffres du rapport GitHub Copilot le montraient déjà avec une grande clarté.
Les fameux 55%.
Oui, les développeurs vont 55% plus vite, avec un taux de réussite dans leurs tâches qui passe de 70% à 78%. Mais l'été 2026 nous montre surtout que la prémisse, le code est cher, elle a perdu toute validité.
Même sur des tâches complexes?
Comme quoi, par exemple?
comme la migration de bases de données, la réécriture de vieux services ou même la documentation technique. Donc si on pousse la logique jusqu'au bout, puisque nos ingrédients sont devenus gratuits, puisque la construction ne coûte presque plus rien en temps de développement, bah alors les mois passés à rédiger des cahiers des charges, les roadmaps trimestriels, les sprints de 2 semaines qu'on négociait minutieusement, tout ça, ça devient une immense perte de temps, en fait.
C'est une taxe inutile, ouais.
C'est l'inversion de la séquence. Avant, on décidait, puis on construisait. Maintenant, on construit et on évalue ensuite.
Et c'est précisément le point de bascule. Le rapport met en lumière ce qu'il appelle le gisement invisible. Il faut bien comprendre pourquoi le processus était si lourd avant.
Vas-y, explique-nous.
Dans le modèle traditionnel, on estime qu'entre 30 et 50% de l'effort total d'une équipe technique part en pure coordination.
50%?
Oui.
La moitié du temps juste pour se coordonner?
Ouais, la moitié. C'est la taxe de synchronisation. Un chef de produit doit traduire un besoin métier en spécification, le designer doit l'illustrer, l'ingénieur doit l'évaluer, les managers doivent synchroniser les dépendances entre les différentes équipes.
L'enfer bureaucratique, quoi.
C'était rationnel quand une erreur de code coûtait des millions. Mais les entreprises dites IA natives aujourd'hui, elles suppriment totalement cette taxe de coordination.
Et l'illustration la plus frappante de cette disparition de la taxe, je trouve, c'est Cursor. On parle quand même d'un environnement de développement qui a franchi la barre des 2 milliards de dollars de revenus récurrents.
C'est colossal.
Et quand on regarde sous le capot de leur organigramme, c'est le choc absolu. Environ 40 ingénieurs et un seul product manager.
Un seul pour 40 ingénieurs, oui.
Une armée d'une 60aine de coordinateurs, de scrum masters, de managers intermédiaires, juste pour que tout ce petit monde se parle sans faire dérailler le projet, quoi.
Et la mécanique interne de ces équipes hyper réduites, elle est fondamentalement différente. Elle ne fonctionne plus du tout avec des user stories ou des tâches isolées.
Comment elles font alors ?
Elles utilisent ce qu'on appelle l'eval-driven development, le développement piloté par l'évaluation.
Ok.
Des acteurs comme Vercel ou Red Hat ont adopté cette approche. Concrètement, ça marche comment ? Au lieu d'écrire un cahier des charges textuel classique, le fameux PRD, on écrit un AI PRD.
Un cahier de charges pour l'IA ?
C'est ça. C'est un harnais d'évaluation, un environnement de test continu. On dit à l'agent IA, voilà la métrique à attendre. Actuellement, tu réussis à générer cette interface complexe dans 78% des cas sans bug. Ton objectif pour la fin de la journée, c'est de modifier ton propre code pour atteindre un score de 90%.
Ah ouais, d'accord.
L'humain ne planifie plus les étapes. Il définit le test final, l'évaluation, et il laisse la machine trouver le chemin.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que, mais attendez, on construit d'abord et on évalue ensuite en laissant des agents chercher la solution tout seul. N'est-ce pas la recette parfaite pour créer un chaos absolu ?
Bah, ça pourrait y ressembler, oui.
Je veux dire, pour n'importe quel leader technique qui écoute notre analyse d'aujourd'hui, l'idée que tout le monde se mette à lancer des prototypes générés par l'IA dans tous les sens, sans réunion d'approbation, sans les filets de sécurité traditionnels, ça ressemble à un cauchemar organisationnel complet.
Je comprends tout à fait. Mais si l'on relie cela à la vision globale, le génie de cette nouvelle méthode, c'est justement de dompter ce chaos apparent grâce à la compression du temps.
La compression du temps, c'est-à-dire ?
L'erreur ne coûte plus des mois de salaire humain. Se tromper de direction, ça coûte désormais une 30aine de minutes de calcul sur un serveur.
30 minutes ? C'est fou !
Prenez l'exemple d'Anthropic, qui est cité dans nos sources, et leur culture du side quest maxing.
Les quêtes annexes.
Exactement. La règle chez eux est super simple. N'importe quel employé qui a une idée peut la prototyper avec l'IA et la déployer en interne le jour même, sans demander la permission à aucun comité.
Aucune validation, rien.
Rien. Le secret, c'est que si personne dans l'entreprise n'utilise ce prototype au bout de 48 heures, le projet est supprimé de manière automatique et impitoyable. On ne fait plus d'études de marché théorique pour savoir si une idée est bonne. On la code en 2 heures, on la déploie et on mesure son usage réel.
30 minutes de temps machine au lieu de 3 mois d'études. Si l'on peut construire, tester en conditions réelles et jeter un produit dans la même journée, bah, on comprend vite que les anciennes cases de l'entreprise volent en éclats, du coup.
Complètement.
La frontière entre le designer, le chef de produit qui fait l'interface et le développeur qui tape le code, ça n'a plus aucun sens logique.
Non, ça n'en a plus. L'organigramme fond littéralement. D'ailleurs, Boris Cherny, l'un des concepteurs chez Anthropic, théorise la fin des titres de poste fixes.
Ah oui, les 5 archétypes.
C'est ça. Il décrit une réalité où les équipes sont composées de 5 archétypes mouvants. Le prototypeur, c'est celui qui va générer des dizaines d'idées en rafale pour voir ce qui colle.
Ok.
À l'inverse, le builder, le bâtisseur, c'est celui qui va prendre un prototype validé et consolider son architecture pour qu'elle tienne la charge en production.
Donc, si je reprends une métaphore, c'est un peu la différence entre un tireur d'élite qui teste différentes cibles pour trouver la bonne et le maçon qui vient bâtir une forteresse indestructible autour de la cible une fois qu'elle est bien choisie.
Très bonne image, oui. Et ensuite, il y a aussi le grower pour l'adoption, pour la croissance, et le maintainer pour la sécurité et la maintenance.
Et parmi ces 5 archétypes, moi, c'est le dernier qui m'a complètement sidéré, c'est le sweeper.
Ah, le nettoyeur !
Le nettoyeur, ouais. Parce que si on écoute bien, la dynamique est tellement frénétique que 80% des prototypes produits par ces équipes IA natives sont jetés.
80%, oui.
Donc ça veut dire qu'il faut une personne dont le métier exclusif, sa seule tâche, consiste à désinstaller, débrancher et nettoyer le code mort laissé par les expériences ratées. C'est littéralement le métier des bourreaux numériques.
C'est un peu ça.
Ça montre bien que le problème, c'est plus du tout de créer, mais de gérer l'excès de création, quoi.
Absolument. L'image de l'éboueur numérique, elle illustre parfaitement le déplacement du goulot d'étranglement dont on parlait au début. Et il y a 5 ans, la difficulté, c'était de générer du code. Aujourd'hui, la difficulté réside dans la vérification de la qualité, l'intégration au système global et surtout, comme tu le disais, le nettoyage de ce qui ne sert à rien. L'ingénieur n'est plus un ouvrier du code, il devient un orchestrateur d'agents synthétiques.
Et on voit ça partout, hein?
Partout. Cette dynamique d'aplatissement hiérarchique, elle est très documentée. Prenez Eleven Labs, la pépite de l'audio IA. Ils ont purement et simplement supprimé tous les titres de poste.
Radical.
Chez Instagram, des équipes testent un rôle unifié qu'ils appellent Product Staff. Ça exige de maîtriser le design, le produit et la donnée simultanément. Amazon emboîte le pas aussi, en augmentant son ratio de contributeurs individuels par rapport aux managers d'au moins 15%.
Le but étant de purger le milieu de l'organigramme de toute cette ancienne bureaucratie devenue trop lente, j'imagine.
Exactement, c'est ça l'objectif.
Ce qui rend la chose très concrète pour notre exploration d'aujourd'hui, c'est l'expérimentation spectaculaire qui a été menée par Uber. Parce que c'est un modèle qui est hautement reproductible.
Oui, très intéressant ce qu'ils ont fait.
Ils ne se sont pas contentés de donner des petites licences IA à leurs employés en leur disant « débrouillez-vous ». Non, ils ont structuré des agentic pods, 16 petits commandos déployés sur 2 mois.
Avec une formule très spécifique.
Voilà. La formule, elle est redoutable. On prend un ingénieur très pointu en orchestration d'IA et on le met en binôme direct avec un expert métier pur. Par exemple, quelqu'un qui gère l'allocation du capital financier au quotidien.
Et pas de chef de projet entre les deux.
Rien. Et on leur donne un sprint de 2 semaines, avec une règle absolue. On observe avant de construire.
La mécanique de ces sprints chez Uber détaille vraiment le comment de la méthode. Les jours 1 et 2, l'ingénieur s'assoit à côté de l'expert métier. Il ne tape pas une seule ligne de code.
Il observe juste.
Voilà, il observe les clics, les tableurs, la logique humaine derrière la tâche. Ensuite, le jour 3 est dédié à prioriser le point de friction le plus douloureux.
Le truc qui prend le plus de temps, quoi.
C'est ça. Et les jours 4 et 5, l'ingénieur construit un agent IA sur mesure pour automatiser ce processus très précis avec l'expert métier qui valide en temps réel à côté de lui.
C'est d'une efficacité redoutable.
Et c'est pas fini. La 2e semaine entière est consacrée à faire tester cet agent par d'autres employés du service financier pour ajuster les comportements de l'IA. Au 10e jour, le produit est déployé à toute l'entreprise.
Et les résultats de ces binômes sont complètement fous. Le rapport mentionne que, sur les processus d'allocation de capital, des tâches manuelles extrêmement lourdes qui prenaient, disons, 15 heures de travail par semaine à des experts financiers, elles ont été réduites à 30 minutes.
30 minutes, c'est un gain de productivité d'un facteur 30.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? Face à de tels gains, la tentation pour toutes les entreprises du monde, c'est de copier ce modèle immédiatement.
Forcément.
Mais c'est précisément là qu'il faut freiner brutalement. Le dossier de recherche consacre une très large part au contre-feu, au mur de la réalité sur lequel beaucoup s'écrasent. Et ce mur, c'est Marty Kagan qui l'identifie le mieux sous le nom de paradoxe de la productivité IA.
L'argument de Kagan est d'une grande lucidité. Il observe que les équipes de développement qui sont équipées d'outils génératifs livrent indéniablement plus vite. La vélocité augmente, ça, c'est un fait.
les fameux 55% de tout à l'heure.
Oui. Pourtant, les résultats commerciaux, comme l'acquisition de clients ou la rentabilité de la nouvelle fonctionnalité, ne s'améliorent pas d'un pouce.
Pourquoi ?
La raison est assez cruelle. Si votre mécanisme de prise de décision produit de mauvaises idées de fonctionnalité à la base, l'intelligence artificielle va juste vous permettre d'inonder le marché avec vos mauvaises idées beaucoup plus rapidement.
C'est logique. La technologie ne corrige pas le manque de pertinence.
Exactement.
Pour reprendre l'image, c'est comme donner une tronçonneuse ultra rapide à un bûcheron qui ne sait absolument pas dans quelle direction se trouve la forêt, en fait. Il va dépenser une énergie folle et il va finir par abattre son propre salon en un temps record.
C'est très imagé, mais c'est ça. Cela soulève une question importante sur la différence entre l'efficience, faire les choses vite, et l'efficacité, faire les bonnes choses.
Ouais.
Et les données macroéconomiques confirment ce mur. Une étude d'Atlassian révèle que si 89% des dirigeants constatent une accélération nette du rythme de production de leurs équipes techniques, à peine 6% d'entre eux sont capables de prouver que cela a généré un véritable retour sur investissement.
6%. Le fossé est immense.
C'est ce que les analystes de McKinsey qualifient de purgatoire des pilotes. Les entreprises se retrouvent bloquées avec des dizaines d'agents IA très innovants, mais qui sont incapables de les intégrer au cœur de leur modèle d'affaires.
Et ce qui aggrave ça, c'est le coût caché, mis en lumière par une récente étude qui a été publiée sur Archivé.
Ah oui, l'étude sur l'explosion de la dette technique, elle est fascinante parce qu'elle démystifie totalement l'idée du code parfait généré par l'IA.
Comment ça se produit exactement sur le terrain, cette dette technique ?
L'étude démontre de façon empirique que l'usage intensif d'assistants au codage sans une supervision architecturale rigoureuse, ça génère une dette technique monumentale.
Ok, mais pourquoi ? L'IA est censée bien coder, non ?
Oui et non. Voici pourquoi. Un grand modèle de langage est très fort pour résoudre un problème local. Il peut écrire une fonction spécifique très rapidement, mais il ne comprend pas l'architecture intellectuelle à grande échelle de l'entreprise.
Il n'a pas la vue d'ensemble.
Voilà. Et les développeurs, souvent mis sous pression par des managers qui veulent aller toujours plus vite, ils acceptent ces blocs de code générés sans prendre le temps de les restructurer. Résultat, le système devient un immense plat de spaghettis.
Incompréhensible.
Le code fonctionne sur le moment, oui. Mais lors de la prochaine mise à jour majeure, aucun humain n'est capable de lire, de comprendre ou de corriger ce qui a été fait. La maintenance devient impossible.
C'est le fameux bot-sitting qui est mentionné dans nos notes, en fait. L'épuisement mental des équipes qui passent des journées entières à relire, surveiller et corriger les hallucinations subtiles ou les erreurs de logique d'une machine.
C'est un vrai phénomène, oui.
On remplace la fatigue physique de l'écriture par une fatigue cognitive de la relecture infinie et sans véritablement créer de valeur ajoutée pour l'utilisateur final.
Et le vrai basculement, c'est que ce modèle percute violemment l'économie fondamentale de l'industrie technologique.
Ah, la question financière ?
L'économie des logiciels, le fameux SaaS, elle s'est construite sur une idée très simple. Des coûts fixes très élevés pour créer le logiciel au début, puis des coûts variables quasi nuls.
Oui, on pêche cher les développeurs une fois et après c'est fini.
Une fois le code d'une plateforme écrit, rajouter 1 million d'utilisateurs ne coûtait presque rien en serveur, ce qui permettait de dégager des marges brutes flirtant avec les 80 ou 85%.
Le modèle en or, quoi.
Mais avec les produits IA natifs, c'est l'inverse absolu.
Bah oui, à cause du coût d'inférence. Chaque fois qu'un utilisateur clique sur un bouton pour générer une réponse, analyser un texte ou créer une image, ça déclenche une requête sur des fermes de serveurs surpuissants équipés de puces GPU hors de prix. Ce n'est plus un coût fixe, c'est un coût variable qui est exponentiel.
Et ça change toute la rentabilité.
D'ailleurs, les données de notre recherche indiquent que les produits véritablement basés sur l'IA peinent à dépasser des marges brutes de 50 à 65%. C'est une véritable saignée financière pour le modèle d'affaires traditionnel du logiciel.
Exactement pour ces raisons. La transition vers ce nouveau paradigme ne peut pas se faire par décret, du jour au lendemain. Les firmes de conseil recommandent une approche par gradient.
C'est-à-dire ?
Y aller pas à pas.
C'est ça. L'objectif est d'identifier un lighthouse use case, un cas d'usage phare, un truc extrêmement précis, très limité, et de prouver sa valeur économique réelle avant de l'étendre.
On ne déploie pas ça partout à l'aveugle.
Surtout pas. Et la métrique de succès ne doit surtout pas être le nombre de licenciés à distribuer aux employés ou le nombre de tokens consommés par mois. Mesurer l'activité, la consommation pure, ça n'a aucun sens.
Qu'est-ce qu'on doit mesurer alors ? Seul compte l'impact métier ? Est-ce que l'agent a augmenté la rétention des clients ?
Est-ce qu'il a diminué le temps de résolution d'un problème client de 20%? Le modèle de langage en lui-même est déjà devenu une commodité.
Tout le monde y a accès.
Exactement. La véritable barrière à l'entrée d'une entreprise aujourd'hui, ce sont ses données propriétaires, la confiance de ses clients et surtout le discernement aigu de ses experts.
Donc si l'on rassemble toutes les pièces de ce gigantesque puzzle pour notre audience, quand on regarde tout ça, qu'on soit en train de gérer une équipe aujourd'hui ou qu'on réfléchisse à ses propres compétences sur le marché du travail, la leçon tirée de cette exploration, elle est limpide. La valeur s'est déplacée.
Totalement déplacée.
Elle ne réside plus dans le fait de savoir comment fabriquer un objet technologique. L'exécution technique pure s'obtient désormais à la demande, en claquant des doigts. La valeur inestimable aujourd'hui, c'est de savoir quoi fabriquer.
C'est ça.
C'est d'avoir l'acuité nécessaire pour définir le bon problème, la rigueur pour évaluer les solutions qui sont générées par l'IA, et puis le courage, comme nos fameux éboueurs numériques, de jeter les 80% de production qui ne servent à rien. Le code est devenu presque gratuit, donc c'est le jugement humain qui se transforme en produit de luxe.
C'est le résumé parfait de cette inversion. La machine donne le volume, elle donne la vitesse de production, mais c'est l'humain qui doit fournir la boussole.
La direction.
Plus l'intelligence artificielle excelle dans l'exécution aveugle de tâches complexes, plus notre capacité à questionner les prémices, à douter des résultats et à comprendre les nuances psychologiques et réelles d'un marché devient le seul vrai moteur de création de valeur.
Et ce qui m'amène à une dernière réflexion pour conclure notre analyse d'aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent. Depuis les débuts de l'ère industrielle et jusqu'à l'apogée du développement logiciel, on a constamment formaté le cerveau humain pour qu'il travaille comme une machine bien huilée.
C'est vrai. On exigeait de la prévisibilité.
Ouais. On a exigé des travailleurs qu'ils respectent des processus ultra rigides, des roadmaps millimétrés, une optimisation obsessionnelle du moindre effort pour éviter l'erreur financière. Mais aujourd'hui, les machines font ce travail de machine à notre place et de manière infiniment plus rapide.
Donc la question, c'est que nous reste-t-il ?
Voilà. Et si la compétence la plus prisée et la mieux rémunérée de la prochaine décennie, ce n'était plus du tout la rigueur algorithmique, mais tout simplement notre intuition la plus irrationnelle. Ces petits éclairs de créativité, ces connexions absurdes qu'absolument aucun test standardisé, aucun harnais d'évaluation continue ne pourra jamais anticiper ni mesurer. La création logicielle est passée de l'ingénierie lourde du béton à la sculpture de l'argile à l'infini.
La matière est là, prête à être modelée.
La seule limite, désormais, c'est notre imagination pour savoir quel château bâtir. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration vertigineuse du modèle opératoire de demain. À très bientôt pour une nouvelle plongée documentaire.